Bienvenue sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. 3h30 d'infos, 3h30 de direct pour vous réveiller et vous écouter. La radio ouverte, vous le savez, sur laquelle vous intervenez quand vous le souhaitez. 3921, le hashtag radio ouverte. Ensemble, nous écoutons le monde changer. Le retour en entreprise, le retour à l'école, le déconfinement en question toujours le matin sur Europe 1 et cette date du 11 mai en vue, le verdict des départements rouges en vert jeudi et d'ici là, on s'active bien sûr chez vous, vous vous préparez, vous êtes en train de vous organiser, vous le racontez tous les jours au 39-21. Mon enfant aura-t-il une place à l'école? Voulons-nous seulement qu'il y aille d'ailleurs? Comment me déplacer dans les transports en commun? Est-ce que j'aurai un masque? Est-ce que j'aurai de la place pour respecter les gestes barrières, la distanciation sociale? Aurais-je d'ailleurs un moyen de transport? Rien n'est moins sûr. À 7h tout à l'heure, Grégoire de Lastérie, maire de Palaiseau en région parisienne, délégué spécial aux nouvelles mobilités de la région Île-de-France. Allez-vous reprendre les transports dès la semaine prochaine? Faut-il les réserver à ceux qui travaillent, au moins sur certains horaires? On va en parler ce matin. À 7h40, un autre élu francilien, Carl Olive, maire de Poissy. Il va accueillir Emmanuel Macron aujourd'hui dans une école de sa commune. Il plaide pour la réouverture des écoles. Les maires doivent aller au combat, dit-il. Qu'est-ce qui lui permet d'être serein sur la réouverture des écoles? Je lui poserai la question tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que les transports, l'école sont la clé de la relance économique, de la reprise des entreprises. Entre autres questions, bien sûr, questions que se posent les DRH, les patrons, les gérants que vous êtes. Alain Griset est président de l'UDP. L'UDP, c'est l'Union des entreprises de proximité. Vous entendrez ses craintes à 6h40. Dans la protection des salariés, l'entreprise a-t-elle une obligation de moyens ou de résultats? Les patrons sont-ils à l'abri de poursuites si un collaborateur était contaminé sur site? Ils veulent des garanties de l'État. À 8h, Luc-Éric Krief, chef d'entreprise et membre du bureau MEDEF Île-de-France, à moins d'une semaine du début du déconfinement, impossible d'y voir clair. Quels effectifs seront là? Quels risques prend-on à ouvrir? Et puis enfin, un dernier domaine ce matin, mais j'insiste, domaine parfois oublié, et c'est pour ça qu'ils se font entendre. Le monde de la culture, toutes les cultures, hein, festivals, musiciens, théâtre, musées, cinéma, tout est à l'arrêt au moment le plus important de l'année. Ils sont organisateurs, producteurs, intermittents du spectacle bien sûr, et les perspectives sont assez sombres. Franck Riester, ministre de la Culture, longtemps silencieux, invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15, il répondra à vos questions. Je refais l'appel, organisateur, producteur, intermittent du spectacle, artiste, c'est ce matin, vous prenez la parole, 3921 et le hashtag radio ouverte sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Eh bien bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous allons vivre une journée pas terrible. En fait, pas terrible dans le sens où une zone de pluie a pénétré sur la France et elle gagne les régions de la moitié nord. Alors je dis pas terrible, mais enfin tous ceux qui ont besoin de pluie seront bien contents. Nous avons nous aurons de la pluie seulement aujourd'hui. Après, on retrouve le soleil. Je vous l'avais dit, hein, une petite parenthèse. Donc, à l'écart, je commence par les bonnes nouvelles. Tous ceux où il ne pleuvra pas, le littoral atlantique, le Poitou-Charente, le sud-ouest, le sud du Massif central, le littoral méditerranéen. En fait, des brumes, des brouillards, puis progressivement, un ciel ensoleillé, peut-être dans l'après-midi, peut-être une averse, et encore, je n'y crois pas du tout. Donc, dans ces régions, vous aurez un temps sec. Et puis, sur le Poitou-Charente, le Limousin, l'Auvergne, la Vallée de la Loire, la région Rhône-Alpes, amélioration sensible après une matinée quand même très humide. Et puis je parlerai pas tout à l'heure de la pluie et des orages qui se manifesteront sur des régions comme la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne. À Paris, ce sera très humide aujourd'hui et du soleil timide sur le nord et la Champagne-Ardenne. Les températures restent quand même bien soutenues en dépit de tout cela. Entre 15 et 22 au nord et entre 23 et 28 au sud.
C'est l'été cette semaine en fait, Laurent Cabrol. Entre les orages, la chaleur, on est un petit parfum d'été.
Un petit peu de tout. Hein. L'été c'était hier et ce sera demain. Et là, il y a un petit parfum de printemps. Bon,
on prend.
Pour faire pousser l'herbe, mon cher
et
Mathieu.
Et puis on regardera ça par la fenêtre. Merci Laurent Cabrol. Et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 6h sur la radio ouverte.
Un enfant qui est en CE1 et dont les parents sont en télétravail et ne font pas partie du personnel indispensable ne sera pas dans la liste des enfants prioritaires pour être accueillis dès le 14 mai.
Tous les enfants ne pourront pas être accueillis à l'école à partir de la semaine prochaine. Certains élèves sont prioritaires et les classes ne peuvent pas être trop chargées. Certains établissements ne rouvriront sans doute même pas leurs portes. Locaux pas adaptés, manque de personnel. Emmanuel Macron va tenter de rassurer les maires aujourd'hui en visite dans une école près de Paris. Un salarié, un parent d'élève contaminé, peut-il attaquer en justice son employeur, le maire, le directeur de l'école? Les sénateurs veulent les protéger, ils ont voté hier un amendement.
Au moment du déconfinement, il y aura des maires Il y aura des présidents de grandes collectivités qui chaque jour vont prendre des décisions. Ils vont prendre des risques.
Dans ce journal, à quand la réouverture des cinémas, des théâtres, la reprise des spectacles? Pas de date pour l'heure, le ministre de la Culture Franck Riester, invité ce matin d'Europe 1. Et le message que lui adressent les intermittents.
Il nous faut du temps et un plan de relance qui ne se situe pas en quelques millions d'euros, mais à la hauteur du budget du ministère de la Culture, c'est-à-dire de quelques milliards, et c'est essentiel.
Et puis un prêt de plus de 200 millions d'euros pour les clubs de foot, Ligue 1, Ligue 2, aux trésoreries asséchées par la crise. Votre invité à 6h40, Mathieu.
Alain Griset, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, pour parler du retour prochain au travail pour nombre d'entre vous. 6h02, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Toutes les écoles ne rouvriront pas la semaine prochaine. Manque de personnel locaux pas adapté. De plus en plus de maires, notamment en Île-de-France, refusent de rouvrir en raison notamment d'un protocole sanitaire difficile à appliquer, surtout dans les petites classes.
Le gouvernement préconisait 15 élèves par classe maximum. Mais dans les faits, ce sera 8 ou 10, voire moins en maternelle. Certains enfants ne pourront par ailleurs même pas être accueillis, même si les parents le souhaitent. En effet, Virginie Salmen, des élèves seront prioritaires. Lesquels ?
Alors, il y a trois types d'élèves prioritaires. D'abord, ceux qui sont dans une classe charnière, grande section de maternelle, CP et CM2. Ensuite, les élèves en situation de précarité sociale et les enfants des travailleurs essentiels. Ça va des soignants aux agents de la poste. Ces élèves-là devraient être accueillis à temps plein à l'école. Les enfants qui ne rentrent, au contraire, pas dans ces catégories, iront en classe soit seulement une demi-journée ou une journée par semaine en fonction de la place, soit plus tard, si les capacités d'accueil sont revues à la hausse. Cécile Frattaroli, porte-parole de l'APEP, donne deux exemples pour les écoles parisiennes.
Un enfant qui est en CE1 et dont les parents sont en télétravail et ne font pas partie du personnel indispensable ne sera pas dans la liste des enfants prioritaires pour être accueillis dès le 14 mai. Alors en revanche, un élève de CP, peu importe le métier de ses parents, idéalement sera accueilli.
Idéalement parce que certaines écoles ne rouvriront pas, faute de locaux adaptés. Et d'ici à jeudi, les directeurs doivent faire des listes des élèves accueillis et prévenir les familles. À Paris, la rentrée des élèves est repoussée au 14 mai, ce qui donne 3 jours après le déconfinement pour préparer les écoles.
Rentrée le 14 au mieux à Paris, la maire Anne Hidalgo s'attend à 15% d'élèves parisiens présents pour cette rentrée inédite.
Des inquiétudes sur l'école qu'Emmanuel Macron va tenter de lever ce matin. Le président se rend dans une école de Poissy, dans les Yvelines.
Les élus de Guadeloupe ont voté hier une motion pour repousser la rentrée à septembre. Le Sénat, plus que jamais chambre d'opposition, quitte à faire exploser l'Union nationale face à la crise. À majorité de droite, il a refusé hier de valider le plan de déconfinement. 89 voix contre 81 et beaucoup d'abstentions, 174. Peu de conséquences pour la mise en œuvre du plan, mais c'est un symbole.
Les sénateurs ont aussi commencé l'examen du prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Ils se sont montrés inquiets sur la question de la responsabilité pénale des maires, directeurs d'école, enseignants amenés à prendre des décisions capital sur le déconfinement.
Pourrait-on se retourner contre eux en cas de contamination, par exemple, d'un élève dans une école ? Contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont voté un dispositif qui doit les protéger juridiquement. Initiative du Républicain Philippe Bas.
Au moment du déconfinement, ça n'est plus l'État qui va dire « à mes ordres, adoptez le comportement de confinement ». Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui, chaque jour, vont prendre des décisions. Il y aura des maires, il y aura des présidents de grandes collectivités, il y aura aussi des chefs d'entreprise. Ils vont prendre des risques dans l'organisation du travail. Ils vont prendre des risques dans les moyens mis en œuvre pour le bon accueil des enfants à l'école. Il n'y a pas de prolongement du confinement possible s'il n'y a pas de réponse au problème de la responsabilité pénale.
On vient de l'entendre, l'amendement sur la responsabilité pénale concerne aussi les chefs d'entreprise, les employeurs. Les 6 principales organisations patronales ont écrit au Premier ministre Olivier Samin.
Ce que redoutent les patrons, c'est de voir un jour des entreprises condamnées pour contamination de leurs salariés sur leur lieu de travail. Condamnées parce que, comme pour l'amiante, les juges estimeraient que, s'agissant du Covid-19, les entreprises sont tenues à une obligation de résultat. Or, affirment les signataires de la lettre, en matière de sécurité, c'est une obligation de moyens qui s'applique. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Pour les 6 organisations patronales, il faut s'en tenir aux risques générés par l'activité de l'entreprise elle-même, pas à un risque sanitaire général dont l'entreprise n'est pas à l'origine. D'où l'appel au gouvernement pour clarifier les choses dans la loi. Et justement, hier, les sénateurs ont adopté en commission un amendement qui précise en substance qu'il faut la faute intentionnelle de l'employeur pour que sa responsabilité puisse être engagée. Commentaire d'un dirigeant patronal hier soir, ça nous va très bien.
Lundi prochain, des milliers de salariés vont retourner physiquement au travail, même si beaucoup devraient continuer à travailler à distance. Dans les entreprises, c'est l'effervescence à moins d'une semaine de l'échéance. Les locaux doivent être transformés.
Au moins 4 mètres carrés autour de chaque salarié, fléchage au sol pour éviter de trop se croiser dans les couloirs, équipement de protection, épreuves logistiques et financières, surtout pour les petites entreprises. À Belfort, la Chambre de commerce a mis en place un service de distribution spécial pour ses TPE et PME. Arthur Mbaché.
Il n'a pas besoin de grand-chose, mais il en a vraiment besoin. 500 masques, 10 visières, 3 protections de comptoir en plexiglas. Patrick Robert dirige une entreprise de BTP, 50 salariés. Pas de quoi impressionner les fournisseurs. Le drive proposé par la Chambre de commerce lui a permis d'éviter, dit-il, de galérer tout seul dans son coin.
Premièrement, ça aurait sûrement été beaucoup plus cher. Et deuxièmement, j'étais pas sûr d'avoir les éléments pour pouvoir redémarrer en temps et en heure, en ayant mis nos salariés en sécurité. Normalement, le déconfinement, c'est le 11. Aujourd'hui, on est prêt, une semaine à l'avance.
Alain Sède préside la Chambre de commerce du territoire de Belfort. Il a imaginé ce guichet unique par lequel peuvent passer tous les petits patrons du département.
Sur un même lieu, le chef d'entreprise se déplace, trouve masque, visière, tout ce qu'il a besoin, et repart une heure après avec ses produits. Il n'a pas besoin de courir sur Internet, à droite, à gauche, ne pas savoir où aller. C'est une question de temps et d'efficacité.
Les masques, les blouses, les bidons de 10 litres de gel hydroalcoolique, etc. Presque tout au drive organisé par la Chambre de commerce a en plus été fabriqué dans le département.
Masque obligatoire sur les vols Air France. À partir du 11 mai, il faudra embarquer avec votre propre masque, annonce la compagnie.
Plus de 3600 personnes toujours dans les services de réanimation. C'est beaucoup, mais la baisse se poursuit. 25 200 décès depuis le 1er mars, mais plus de 50 000 personnes guéries.
La carte du déconfinement n'a pas évolué hier. 32 départements rouges, 50 verts, 19 oranges. Déconfinement déjà reporté à Mayotte, où la circulation du virus est trop importante.
Ils sont souvent la première personne que vous croisez à votre entrée au supermarché ou dans de nombreux bâtiments publics. Ce sont les agents de sécurité, tous les jours au contact du public, dans la vie normale, contrôle des sacs, voire palpation dans certains lieux. Alors comment concilier la pratique de leur métier avec les mesures sanitaires drastiques de l'après 11 mai? Avec quel équipement? Ils s'en inquiètent au sortir d'une période de confinement qui a déjà fortement impacté leur secteur.
Bonjour Claude Tarlet.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération française de la sécurité privée. Supermarchés, hôpitaux, EHPAD, bâtiments publics, la liste est longue. 150 000 agents de sécurité ont été mobilisés en France dès la première heure, il faut le rappeler. Vous ne reprenez pas seulement maintenant. Mais il ne faut pas croire qu'ils ressortent lundi prochain, les agents de sécurité. Là, on va compter sur vous, en fait, pour assurer la relance progressive de l'activité.
Nous allons préparer le déconfinement avec le même esprit de responsabilité qui a été celui de nos entreprises depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons été présents partout, transporteurs de fonds, installateurs de systèmes de sécurité, télésurveilleurs, agents de protection physique, mais aussi agents de sécurité, vous le rappelez à l'instant, pour protéger les installations, accompagner pendant cette période de confinement la population, notamment dans des sites qui étaient ouverts au public. Tout ceci a nécessité très vite que nos entreprises mettent en place des dispositifs de protection, mais aussi et surtout qu'elles sensibilisent, qu'elles préparent, qu'elles forment l'ensemble de nos équipes à des gestes barrières essentiels. Lavage des mains, bien sûr, distanciation,
oui, travail alors, en coopération avec nos clients. Se les appliquer, ces gestes barrières, et les faire respecter. Mais d'abord, puisque vous l'évoquiez, ces agents, surtout à partir de lundi, ils seront suffisamment protégés?
Ils seront, partout où nous intervenons, protégés dans le respect des règles sanitaires et en lien très étroit avec l'ensemble des entreprises qui font appel à nos services. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le secteur est fortement impacté, vous l'avez dit, certaines de nos activités se sont totalement effondrées dans le domaine de la sécurité événementielle, la sécurité aéroportuaire, la formation, les agences de recherche privées, mais dans d'autres domaines, la crise sanitaire a nécessité le renforcement des équipes pour précisément veiller à ce que il n'y ait pas de difficulté, que les dispositions soient respectées par la population. La sensibilisation, elle se fait à travers les campagnes d'information que mènent les entreprises avec nos clients, et elle se fait aussi par une protection adaptée. Cette protection, elle a été difficile dans les premiers jours. Depuis, nous nous sommes organisés, l'acheminement est plus simple et aujourd'hui, les entrepreneurs sont organisés pour faire face.
Petite question, Claude Tarlet, quels sont les droits des agents de sécurité dans un tel contexte, dans les transports, à l'entrée des magasins? Est-ce que ces droits sont élargis? Est-ce qu'ils sont les mêmes que d'ordinaire?
Il n'y a pas de droits nouveaux qui ont été ouverts. Il y a une confusion avec ce qui est proposé dans les transports. Ce sont les services internes de la SNCF ou de la RATP qui vont bénéficier de manière provisoire de prérogatives nouvelles. Pour les agents de sécurité privée, comme pour les entreprises de sécurité privée, le cadre légal reste le même. Nous sommes sur le terrain de la prévention et essentiellement de la prévention.
Claude Tarlet, président de la Fédération française de la sécurité privée, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Et de notre...
Cela permet également de saluer le travail remarquable de toutes les femmes et les hommes qui, sur le terrain, ont contribué au maintien de la vie économique du pays. Ils sont souvent oubliés, Mathieu Béliard, et c'est un moyen pour moi de leur rendre hommage.
Eh bien, faites-le, c'est très bien fait, Claude Tarlet, et c'est précisément ce que j'allais dire. On passe devant, on rentre dans les magasins ou dans les bâtiments, sans toujours les voir. Il faut savoir qu'ils sont mobilisés depuis le 17 mars, les agents de sécurité. Merci, Claude Tarlet.
L'actualité ce matin, c'est aussi un soldat français tué au Mali, le deuxième en 4 jours, un militaire de 21 ans de l'opération Barkhane qui lutte contre les terroristes au Sahel, mortellement touché par des tirs ennemis en intervention.
Le chômage partiel à taux plein maintenu après le 1er juin. Dans l'hôtellerie-restauration, événementiel et une partie de la culture, annonce hier soir de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, pour ces secteurs très impactés par la crise.
11 700 000 salariés sont aujourd'hui au chômage partiel, un record historique. Devrons-nous demain aller au cinéma, au théâtre, au spectacle avec un masque sur le visage? C'est l'une des préconisations d'un rapport remis au gouvernement pour une réouverture des lieux culturels. Pas de date pour l'heure.
Franck Riester, le ministre de la Culture, est l'invité d'Europe 1 à 8h15 après un long silence et les intermittents l'interpellent ce matin. Denis Gravouille de la CGT lui expose ses conditions pour une reprise des spectacles.
Ça passe notamment par la prolongation des droits des intermittents du spectacle pendant la période de confinement, plus après la reprise au minimum pour qu'on puisse reprendre de bonnes conditions. Ça passe par un plan de reprise et nous on dit par exemple mettons en place un comité sanitaire et social pour savoir dans quelles conditions on peut reprendre pour pas reprendre trop vite. Ce serait déjà dangereux comme tous les salariés, mais quand on accueille du public. La trapéziste qui va devoir reprendre le travail, il lui faudra, comme un sportif de haut niveau, plusieurs mois d'entraînement avant de pouvoir être en mesure de refaire un spectacle dans des bonnes conditions. Donc il va falloir regarder tout ça, et c'est bien pour ça qu'il nous faut du temps, et ça veut dire prolonger les droits sociaux, et ça veut dire un plan de relance qui ne se situe pas en quelques millions d'euros, mais à la hauteur du budget du ministère de la Culture, c'est-à-dire de quelques milliards, et c'est essentiel.
Denis Gravouille de la CGT intermittent, joint pour Europe 1 par Angèle Châtelier. La culture en souffre, le foot aussi, zéro revenu pour les clubs depuis l'arrêt des matchs. La Ligue a voté hier l'obtention d'un prêt garanti par l'État de plus de 200 millions d'euros. Cyril de la Morinerie, les trésoreries sont sécurisées au moins jusqu'à fin juin.
C'est un soulagement pour la majorité des présidents de clubs de football. Ce prêt d'un peu plus de 224 millions d'euros va permettre à la Ligue de soutenir les formations de Ligue 1 et Ligue 2 qui n'ont plus aucune ressource depuis l'arrêt des matchs. Cette somme sera répartie en fonction du classement et compensera le manque à gagner des droits télé, un prêt qui s'ajoute au dispositif de chômage partiel et qui vise à soutenir un secteur touché de plein fouet par la crise, souligné dans Europe 1 Sport le président de Guingamp, Bertrand Desplat.
Il y a un envers du décor qui est ni plus ni moins qu'une économie à part entière, qui est aujourd'hui autant sinistrée que l'aérien, du tourisme et d'autres activités de ce type. On partage un point commun, c'est qu'aujourd'hui c'est 0 euro de chiffre d'affaires et des charges qui continuent à courir tous les mois. Donc effectivement, le prochain grand enjeu, il est autour de la réinvention d'un modèle économique.
Seule voix discordante, celle de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon qui ne digère toujours pas l'arrêt définitif du championnat cette saison, estime que ce prêt n'est pas la solution, qu'il ne compensera pas la perte des droits télé. Il devra en outre être remboursé. La Ligue aura en effet jusqu'à 5 ans pour payer sa dette.
Et puis en Allemagne, le championnat pourrait reprendre très bientôt. Décision peut-être demain. La tendance était positive, mais hier, 10 cas de coronavirus ont été découverts en première et deuxième division sur plus de 1700 tests effectués.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. On va en reparler ce matin, notamment dans l'édito sport de Virginie Fulpin. Et si pour une fois le modèle était français, si l'Allemagne s'était trompé sur la reprise du championnat, 10 cas testés positifs. On va surveiller la décision de la Bundesliga et on va en parler dans l'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20 ce matin. Il est 6h15.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1, l'invité inattendu dans quelques secondes avant de retrouver le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard.
6h16 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et nous sommes à 6 jours du retour à l'école. Pour certains, le 11 mai signifie aussi retour au bureau, avec l'inquiétude de retourner sur un lieu potentiellement dangereux pour la santé, qui aurait été touché par le virus. Entreprises, établissements scolaires, commerces, tous s'attellent à désinfecter leur lieu de travail pour assurer la sécurité de tous. Et comment réagir quand on sait pour sûr que le virus est passé par là? Bonjour Baptiste Girardet.
Bonjour Mathieu Bédère.
Merci de jouer le jeu de l'invité inattendu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes fondateur de l'entreprise Sans Froid, une société spécialisée dans le nettoyage des sites d'incidents traumatiques. Alors pour être honnête, je n'avais même pas conscience de l'existence de votre métier. Soyons clairs, précis pour nos auditeurs, avant de parler du coronavirus. Sans Froid, vous, votre entreprise à l'origine, vous nettoyez les scènes de crime, c'est ça?
Exactement. Je ne vous en veux pas que vous ne sachiez pas que ça existe, puisque tant que nous ne sommes pas confrontés à ce type d'événement, on ne peut pas l'imaginer. Après un parcours et une expérience chez les sapeurs-pompiers de Paris, puis dans la police technique scientifique, j'ai décidé de fonder cette société il y a près de 3 ans, après une formation que j'ai effectuée au Canada, parce que ce métier en tant que tel n'existe pas en France.
Oui, vous avez fondé cette entreprise à l'origine pompiers de Paris, vous avez aussi travaillé à la police scientifique. J'essaye de retracer votre parcours pour essayer de comprendre, au-delà de cette question du diplôme au Canada, ce qui vous a donné envie de nettoyer des scènes de drame.
Eh bien, parce que ça m'est arrivé dans ma famille. C'est pas une envie finalement, c'est le métier qui m'a choisi. Quand il vous arrive de drames dans votre famille et que vous devez nettoyer cette scène où des gens sont décédés suite à des événements climatiques et médicaux, et ensuite quand certaines personnes font le choix de se donner la mort, eh bien ça laisse des traces. Et ça a été à moi, entre autres, de nettoyer ces traces. Et ce sont des éléments psychologiques dont on se remet jamais. Ce sont des images qui vous hantent. Et je souhaite être en fait le porte-parole à travers cette société pour dire que ça nous plaît pas de nettoyer ces traces de sang suite à un décès. Par contre, ce qui est inévitable, c'est qu'on souhaite le faire à la place des familles. Et on souhaite exister en tant que tel.
Vous êtes nombreux en France ?
Nous sommes la seule société en France, située en Île-de-France, dans les Yvelines, qui est certifiée dans ce domaine-là. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les autorités sanitaires et de l'État nous entendent pas. On dit qu'on existe, on dit que nous sommes allés traverser l'Atlantique pour chercher une certification, pour pouvoir permettre de fournir une obligation de résultat aux familles qui nous appellent. Malheureusement, aujourd'hui, cette activité n'existe pas en France et nous sommes les seuls certifiés sur le territoire français.
Alors, vous n'êtes pas reconnu et pourtant vous êtes sollicité, on va le comprendre dans quelques secondes. Votre activité ces dernières semaines a été recentrée sur le Covid. Pourquoi ? Quelle est la part de votre expérience qui peut être utile dans cette pandémie ?
Alors l'expérience que l'on en a, c'est qu'on pratique la désinfection d'habitat sur des protocoles très stricts que nous avons édictés au sein de la société, sur la base de ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire quand les techniciens au sein de la société Sans Froid sont capables d'inactiver un virus, de tuer une bactérie, de détruire des mauvaises odeurs au quotidien dans des nettoyages d'habitat après le décès, eh bien on peut aisément inactiver le virus de la souche du Covid-19.
Mais très concrètement, imaginons, là moi je suis chez moi en télétravail depuis de longues semaines, mais je vais rentrer à Europe 1, je suis inquiet pour mon bureau. Je ne sais pas si le Covid y est. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ?
Alors concrètement, ce que l'on fait dans les habitats ou les sociétés qui nous appellent pour justement garantir l'obligation de résultat visant à ne plus à ce qu'il n'y ait plus de suspicion de présence de Covid-19. Le Covid-19 c'est non vérifiable, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure nous de dire il y est ou il y est pas dans un habitat ou dans un environnement d'entreprise. On part du principe qu'il y est et ensuite par notre protocole, on va ensuite désinfecter toutes les surfaces qui ont pu être touchées par l'homme, tout ce qu'on appelle les manuportés, les interrupteurs, les poignées de porte, tout ce qui est surface touchée ou susceptible de l'être par l'homme. Et ensuite, on traite l'air avec des appareils spécifiques qui sont dits des appareils à ozone, qui vont traiter l'air en transformant le dioxygène, l'O2 qui est présent dans l'air à travers une lampe à UV qu'on appelle une lampe gamma et qui va produire de l'ozone. Et cet ozone, on sait qu'il a une action bactéricide, fongicide et virucide. Donc, le Covid-19 étant un virus, on va inactiver ce virus à travers cet ozone, ce gaz finalement que nous allons libérer dans cet environnement, plus le traitement de toutes les surfaces.
Je pense que je n'aurais pas pu l'expliquer aussi clairement. La réalité, c'est que vous avez l'habitude, en fait, d'arriver sur des sites compliqués, parfois infectés.
Bien sûr, notamment à longueur d'année, nous décontaminons les cases réfrigérantes dans lesquelles sont conservés les défunts quand les gens sont conservés dans des morgues, dans des maisons funéraires. Et il y a des virus qui sont beaucoup plus virulents que le Covid-19 auxquels nous devons faire face à longueur d'année. Donc pour nous, ça semblait très logique d'apporter notre concours dans cette crise sanitaire par le fait de désinfecter des environnements de travail ou chez les particuliers.
Et qui fait appel à vous en ce moment sur le coronavirus ?
Alors, beaucoup de particuliers qui reçoivent chez...
On peut, c'était ma question, je croyais que ce serait des entreprises, des administrations. Là, moi, en tant que particulier, je peux vous demander de venir désinfecter chez moi ?
Bien sûr, tout à fait. Là, nous observons des retours de personnes guéries qui sont rentrées de réanimation. Et avant de regagner la chambre ou le salon dans lequel elles étaient, j'allais dire, mises en quarantaine chez elles avant d'avoir des signes et des facteurs de gravité qui les obligent à être hospitalisées, eh bien, regagnent leur domicile. Et avant de regagner leur domicile, leur famille nous demande de décontaminer la pièce dans laquelle elles sont restées en quarantaine. Et nous désinfectons ensuite l'ensemble de l'appartement ou de l'habitat concerné.
Ça coûte combien ?
Ça coûte moins de 1000 euros en fonction de la disposition de l'appartement et du contenu de l'appartement, puisqu'on va jusqu'à inhiber et traiter tout ce qui est draps, literie, les rideaux, et ensuite toutes les surfaces manuportées, donc tout dépend après de la surface de l'appartement. Mais voilà, il faut compter moins de 1000 euros pour avoir une obligation de résultat, avec un certificat de désinfection remis à la clé.
Et en ce moment, j'imagine, avec la perspective du 11 mai, vous êtes particulièrement sollicité par des entreprises, j'imagine ?
Tout à fait. On a beaucoup d'écoles qui nous contactent un peu dans le no man's land de ce que les gens peuvent trouver sur Internet en termes de produits sanitaires ou de revente de produits. Nos protocoles sont effectués avec des produits désinfectants que nous revendons et nous créons des protocoles personnalisés pour chaque entité, que ce soit une école, une mairie, une entreprise, de manière à expliquer comment fonctionnent nos désinfectants, comment faut-il les appliquer pour les gens qui ne souhaiteraient pas budgétairement notre intervention ou qui géographiquement ne permettrait pas une intervention. On revend aussi des produits liés à cette crise, comme on l'a toujours fait. Hein. On ne s'est pas inventé revendre des produits à la veille de cette crise. Et donc on accompagne comme ça, dans la technique de désinfection, les personnes qui nous sollicitent.
Simplement parce qu'en ce moment, et ce matin en particulier sur Europe 1, on pose la question de la responsabilité au sens juridique du terme pour les élus locaux, pour les directeurs d'école, pour les entreprises. Ça peut être mis à leur crédit, je veux dire, s'ils sont passés par vous, ils le mettent sur un dossier pour clairement montrer qu'ils ont agi.
Eh bien, exactement. Je suis toujours officier de sapeur-pompier par ailleurs, et c'est vrai que j'ai un devoir de conseil au-delà d'être chef d'entreprise moi-même. Et c'est vraiment ce devoir de conseil que je leur donne en précisant qu'effectivement le code du travail, hein, l'article 41-21-1, précise l'obligation de l'employeur, et notamment dans la sécurité mentale et physique de ses salariés. Eh bien, le fait de désinfecter par le biais d'une société spécialisée certifiée dans ce domaine, avec un certificat qu'on délivre à l'issue de notre désinfection, eh bien, lui garantit une obligation de résultat et lui permet de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels pour être vraiment, j'allais dire, irréprochable vis-à-vis de son personnel, de ses salariés et du CHSCT.
Baptiste Girardet, merci beaucoup. Merci de vos réponses très claires pour nos auditeurs. On découvre à la fois votre métier, votre entreprise, sans froid, votre activité nécessaire en ce moment, en particulier au moment du Covid, bien sûr. Mais d'une manière générale, on a aussi compris votre appel à la création d'une certification, d'un diplôme en France pour ce métier qui est le vôtre, nettoyer des scènes de drame, des scènes de crime. Et en ce moment, nettoyer des locaux de particuliers ou d'entreprises, d'administration, en prévision de la reprise de l'activité le 11 mai. Baptiste Girardet, merci beaucoup, mon invité inattendu ce matin sur Europe 1. 6h26.
Europe 1.
À suivre le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini. Très bon réveil à toutes et à tous.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Loin des scènes de crime dont nous vous parlions il y a quelques instants, nous partons pour la campagne, prendre une bouffée d'oxygène dans notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Chez vous, du côté de Boissey, en Haute-Loire. Alors que les températures s'adoucissent, Fanny, elles permettront dans quelques semaines le retour d'une espèce emblématique des beaux jours, pourtant loin de faire l'unanimité. Le moustique.
Le moustique, Mathieu, qui, rappelons-le, est l'animal le plus meurtrier pour l'homme. 7 millions de morts par an, loin devant les requins, les lions ou les crocodiles. Les moustiques tueurs qui ne sont qu'en fait qu'une petite minorité, car seuls 6% des 3500 espèces de moustiques se nourrissent de sang humain. Et ce chiffre est encore divisible par deux, puisque seules les femelles sont hématophages. Je vais même, pour vous ce matin, vous en vanter les qualités de ce moustique. D'abord, sachez qu'ils font partie d'un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, car ils servent de nourriture à de nombreuses espèces. Sans moustiques, nous observerions un effondrement incroyable du nombre d'oiseaux, de poissons, de reptiles ou encore de mammifères et d'insectes. Il y a même l'entomologiste américain Bruce Harrison qui en est venu à la conclusion que si les moustiques venaient à disparaître, le nombre d'oiseaux chuterait de plus de 50%.
Vous nous dites aussi que les moustiques sont une aide à la médecine ?
Oui, on a remarqué qu'afin de faciliter la remontée du sang dans la trompe, les femelles moustiques injectent un anticoagulant particulièrement efficace qui pourrait permettre de développer des traitements plus adaptés aux maladies cardiovasculaires. Le moustique a même permis de créer une seringue dernier cri dont la finesse permet de faire des injections complètement indolores pour les patients.
Oui, et c'est cet anticoagulant hein, qui vous démange, qui vous gratte quand vous êtes piqué par un moustique. Mais ce n'est pas tout. Le moustique est aussi un insecte pollinisateur.
Et ça, c'est beaucoup moins connu, Mathieu. Les moustiques sont adeptes des petites fleurs inaccessibles aux gros diptères. Les moustiques, d'ailleurs, comme les fourmis, sachez-le, sont les principaux pollinisateurs du cacaoyer. Un monde sans moustiques signifierait donc un monde sans chocolat. Il a presque tout pour lui, finalement, ce moustique. De quoi aborder la saison estivale avec un autre regard sur lui.
On apprend des choses au contact de la nature tous les matins. C'est le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini. Vous l'aurez compris, c'est pas de bras, pas de chocolat. C'est pas de moustiques, pas de chocolat. Le rendez-vous à la ferme est à retrouver sur europe1.fr. 6h29, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Oui, avec de l'air froid qui est arrivé subitement. Non, parce que c'était prévu. Mais enfin, il est arrivé quand même rapidement de Scandinavie. Et cela provoque sur la moitié nord de la France, eh bien, à la fois des orages, des petites pluies et un temps qui n'est pas très agréable. Mais les régions du Nord en ont besoin de cette pluie. Et puis sur le Sud, ça restera quand même assez ensoleillé. Voilà la grande tendance, en sachant que dès demain, nous avons une nouvelle poussée de l'anticyclone. Et donc tout le monde retrouvera un temps ensoleillé et estival comme nous l'avons connu hier. Donc mardi, ça va pas, si vous avez envie de soleil. Mercredi, jeudi, vendredi, ça ira. Et samedi, dimanche, ça n'ira pas non plus, puisque là, ce sera à peu près la même chose, la même situation qu'aujourd'hui, avec le retour d'orages et d'un temps agité. Bon, vous avez les grandes tendances pour la semaine, en sachant que pour aujourd'hui, les régions les moins gâtées hein, par le ciel seront la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, le centre, la Franche-Comté, où les pluies seront fréquentes dans toutes ces contrées, alors que ça ira beaucoup mieux sur le littoral atlantique, le sud-ouest, le sud du Massif central et le bassin méditerranéen.
Merci beaucoup Laurent Cabrol et bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Nous sommes ici mobilisés, déterminés pour réussir le déconfinement, mais nous n'accepterons pas de le faire sans garantie.
Le Sénat, un caillou dans la chaussure du gouvernement. Fin de l'Union nationale hier soir avec le rejet du plan de déconfinement d'une courte majorité avec une abstention massive. Les 4 mètres carrés par salarié, est-ce faisable ? Il n'y aura pas vraiment de choix. Les entreprises se préparent. Reportage dans ce journal chez un spécialiste des drapeaux dont les salariés vont se voir distribuer des lingettes. C'est la question clé du moment. Quelle sera la responsabilité des maires en cas de foyer épidémique sur leur commune ? Éclairage juridique très simple à suivre. Et puis, le cinéma aussi veut retrouver sa vie normale, rouvrir les salles, mais aussi relancer les tournages. Visite médicale obligatoire pour que les acteurs aient un peu de proximité physique à l'écran. Votre invité dans 10 minutes, Mathieu.
Alain Griset, c'est le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. La responsabilité pénale des petits patrons peut-elle être engagée face au Covid ? Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, ça vous concerne directement. Et c'est juste après ce journal. 6h31, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y avait eu jusqu'à présent une forme de retenue dans le débat politique allant pour les sénateurs, majoritairement issus du parti Les Républicains, jusqu'à voter les textes proposés par le gouvernement face à la crise sanitaire.
Changement de tendance hier soir avec le rejet par le Sénat du plan de déconfinement que venait d'exposer le Premier ministre. Pour Europe 1, Claudia Bertram a suivi les débats et le vote.
89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions. Le Sénat dit non au plan du gouvernement. Patrick Kanner, le chef de file des sénateurs PS.
Le soutien se construit dans la confiance. Le compte n'y est pas.
Majoritaire, les sénateurs LR, eux, se sont massivement abstenus. Le président de groupe, Bruno Retailleau.
Ce plan de déconfinement ne peut pas être un pari. Acquis tout double.
L'abstention qui l'emporte, ça valait le coup de réclamer un vote, ironise un conseiller ministériel. Conscient du signal moyen envoyé à l'opinion, même si ce vote est avant tout symbolique, d'autant que les sénateurs ne désarment pas. Examinant dans la foulée le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence, ils ne comptent pas signer un chèque en blanc. Martel le rapporteur LR, Philippe Bas.
Nous sommes ici mobilisés, déterminés, pour réussir le déconfinement, mais nous n'accepterons pas de le faire sans garantie.
Des garanties sur la responsabilité des maires ou sur le traçage des personnes contaminées et de leurs contacts. Le texte sera voté cet après-midi par les sénateurs, avant d'être examiné par les députés dans la semaine. Un conseiller ministériel balaye, on rétablira ce qu'on veut à l'Assemblée.
Depuis dimanche et la publication d'un protocole sanitaire par le ministère du Travail, vous vous êtes sûrement représenté mentalement votre bureau avec les 4 mètres carrés obligatoires par personne, un espace vital en quelque sorte équivaut dans tous les espaces d'une entreprise.
Exemple chez Doublet, c'est une société spécialisée dans la signalétique, les barrières, les drapeaux. 40 salariés sur 120 sont aujourd'hui présents dans les murs. Dès lundi, dans 6 jours donc, ils seront bien plus nombreux. Reportage de Maximilien Carlier.
À l'entrée du bâtiment, un portant avec du gel hydroalcoolique. Port du masque obligatoire. Au rez-de-chaussée, les ateliers et puis un escalier pour accéder au bureau.
Nous allons mettre à disposition des salariés des lingettes.
Gaëlle Collard-Doublé, directrice générale.
Pour que justement, à chaque fois, eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main ou à l'inverse, de monter avec la lingette à la main.
Dans l'open space quasi vide, les ordinateurs sont éteints. Il y a une fine couche de poussière sur les claviers, pas utilisée depuis presque 2 mois.
Ce que l'on a prévu, c'est prendre tout ce qui est sur les bureaux, les mettre dans des cartons et de tout laver à l'eau de Javel. On a également une climatisation. Donc cette semaine, on est en train de regarder comment faire nettoyer cette clim. On va regarder comment augmenter les cloisons. Des cloisons plus hautes pour aussi favoriser la création d'espaces de travail fermés pour les protéger.
Et les salariés auront encore accès à la fameuse machine à café.
On en a besoin.
Mais ils devront avoir de nouvelles habitudes à partir du 11 mai.
Et on nettoie à chaque utilisation.
Avelin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Puisqu'on parle d'économie, il y a cette annonce du groupe américain General Electric qui va supprimer 10 000 emplois de plus dans sa division aéronautique. Il fabrique des moteurs d'avion pour Airbus et Boeing, eux-mêmes violemment secoués par la crise. General Electric avait déjà annoncé 2600 suppressions de postes. Mais revenons à la France avec cette problématique pour ceux qui s'apprêtent à reprendre leur trajet domicile-travail. Et ils sont nombreux à passer chaque jour d'un département à l'autre.
Ce qui pose question car il y a désormais cette carte de France actualisée chaque soir. Les règles de déconfinement ne seront pas les mêmes entre les zones en rouge et les zones en vert. Les salariés interrogés par Élise Dangean ont de vraies inquiétudes.
Chez nous, on n'a pas été touché plus que ça. Donc en fait, moi je me dis, potentiellement, je peux ramener la maladie et contaminer les personnes.
À partir de lundi, Jérémy va reprendre ses trajets quotidiens entre Cherbourg, où il vit, et Paris, où il travaille. Ça hantise, ramener le virus dans ses bagages. D'autant que ce père de famille est contraint de prendre les transports collectifs, train, métro, bus, là où la distanciation sociale lui semble bien difficile à respecter.
Déjà de base, même en commençant très tôt le matin, les trains sont pleins, il y a toujours du monde. Il faut fréquenter les transports pour comprendre que ça va être super compliqué.
Passer du vert au rouge, c'est ce que s'apprête à faire Hugo et sa compagne, confinés dans leur maison familiale près de Montpellier. Tous les deux reprennent le travail lundi, il faut donc rentrer en région parisienne et ce n'est pas la maladie qui les inquiète, mais plutôt de retrouver une vie bien vide.
Bah là, ça va être de nouveau me réenfermer dans 40 mètres carrés, de ne pas pouvoir bouger, retrouver des magasins qui sont quasiment vides, les parcs ne sont pas réouverts, donc on ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est a priori aller travailler.
Et pour tous, la même inquiétude, le trafic ferroviaire qui s'annonce très réduit malgré le déconfinement.
Emmanuel Macron en visite ce matin dans une école de Poissy, dans les Yvelines, à 6 jours de la réouverture des écoles, et alors que 329 maires d'Île-de-France veulent rouvrir plus tard. Idem d'ailleurs en Guadeloupe, 29 des 32 maires de la collectivité, ainsi que la présidente du département et le président de la région, ont voté une motion pour reporter cette reprise des cours en classe à septembre.
Et à 7h40, je recevrai en direct Carl Olive, le maire de Poissy. C'est lui qui accueillera le président de la République dans cette école ce matin. On le voit, la responsabilité des maires sur le plan juridique est devenue un enjeu crucial, une crainte même pour beaucoup d'élus.
Oui, avec cette question, que peut-il leur arriver si leurs administrés tombent malades? Des parlementaires veulent encadrer l'engagement de cette responsabilité des élus face à un virus inconnu. On est avec Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Marion, aujourd'hui, que risque un maire pénalement?
Eh bien, selon la loi, un maire peut être poursuivi pour mise en danger de la personne d'autrui s'il a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité. C'est un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, jusqu'à 3 ans de prison en cas d'homicide involontaire. L'inquiétude des élus aujourd'hui, c'est de se voir reprocher des manquements dans la gestion de la crise. Par exemple, un administré qui aurait contracté le Covid-19 parce qu'il n'avait pas de masque, ou bien après le retour de son enfant à l'école. Mais la mise en danger de la vie d'autrui est difficile à caractériser. Encore faut-il prouver le lien entre la décision du maire et son impact éventuel sur un ou plusieurs habitants de la commune. C'est très difficile d'engager la responsabilité pénale d'un édile, comme en atteste le faible nombre de condamnations des élus locaux pour atteinte involontaire à la vie ou à la sécurité d'autrui. Depuis 2014, 43 élus locaux ont été poursuivis et seuls 12 d'entre eux ont été condamnés.
Il y a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dévoile ce matin son plan de sortie du confinement pour la capitale. Elle le fait dans une interview au journal Le Parisien.
Au programme aussi, la réouverture des parcs et un nouveau plan de circulation. Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini.
Anne Hidalgo veut faire la part belle au vélo et laisser plus de place aux piétons. Au total, elle prévoit 50 km de nouvelles pistes cyclables. Ce seront des espaces pris sur des voies habituellement réservées aux voitures et ce sera le cas sur le boulevard Saint-Michel et la rue Saint-Jacques, en plus d'une partie de la rue de Rivoli qui sera, elle, réservé au vélo. Pour les piétons, ce seront les abords des gares et une trentaine de rues proches des écoles qui leur seront dédiées. C'est presque un nouveau plan de circulation qu'Anne Hidalgo n'exclut pas de maintenir une fois l'épidémie terminée. La maire de Paris précise aussi ses intentions pour les parcs et les jardins. Malgré le fait que Paris soit en zone rouge, elle souhaite les rouvrir sans autoriser les pique-niques, sans accès aux aires de jeu, mais avec un système de comptage de personnes encore à l'étude.
On prend un peu de recul ce matin, car au-delà des questions qui se posent chaque jour sur l'approvisionnement en masques ou sur la sortie du confinement, il y a la suite et notamment les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire pour les soignants.
Oui, l'afflux de malades et le taux de mortalité sont inédits avec cette maladie, une prise en charge qui risque de laisser des blessures invisibles. En Chine, de premières études font état de dépression pour la moitié du personnel de santé mobilisé dans cette crise sanitaire. Il y a donc un risque important de stress post-traumatique. Jeanne Bergaoui pour Europe 1 a recueilli des témoignages de soignants.
Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée.
Il y a la peur d'être contaminée, de ramener le virus à la maison et le travail quotidien éprouvant, témoigne Audrey, infirmière à Lille.
On tient des postes de 12 heures, forcément nous tombons de fatigue, c'est le cas de le dire.
Cet épuisement pousse des soignants à contacter des plateformes de soutien psychologique. En un mois, l'association Soins aux professionnels en santé a reçu plus de 2500 appels. C'est autant qu'en 2 ans, mais pour le président de SPS, Eric Henry, des troubles plus importants apparaîtront à la sortie du confinement.
Quand le rideau se ferme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le grand vide, c'est la dépression que vont faire beaucoup de soignants d'avoir donné beaucoup. Il faut vraiment être bien accroché pour passer au travers de tout ça sans avoir de cicatrices.
Souffrance, hallucinations, cauchemars sont des signes du stress post-traumatique. Le soignant revit alors un événement en boucle, explique la psychiatre Nathalie Prieto.
L'événement qui se revit en images, en sons, est toujours revécu avec la même charge émotionnelle qui finit par être très toxique.
Ces experts appellent à la mise en place de dispositifs dans chaque hôpital, mais aussi pour les soignants qui exercent dans les EHPAD ou en libéral, des sas de décompression anonymes et confidentielles pour évacuer cette charge émotionnelle.
Et on va terminer ce journal avec un peu plus de légèreté. Essayons de rêver un peu. Ça paraît de la science-fiction, mais allez, osons le dire. Les salles de cinéma vont bien rouvrir un jour.
Oui, bien sûr. Le cinéma aussi prépare son déconfinement. Emmanuel Macron a promis des annonces pour le secteur de la culture demain. L'enjeu est double, comme nous l'explique Mathieu Charrier.
Les salles de cinéma se disent prêtes à rouvrir, avec masque et gel hydroalcoolique dans les halls, possibilité d'enlever son masque pendant la projection, mais en laissant un siège de libre entre chaque spectateur, puis une désinfection systématique entre chaque séance. Encore faut-il avoir des films à montrer, car aujourd'hui, tous les tournages sont arrêtés, et pour pouvoir reprendre, il faut définir un cadre, explique le producteur Dimitri Rassam, qui a dû interrompre le tournage d'Envole-moi de Christophe Baratier, porté notamment par Gérard Lanvin.
On a préemptivement commandé des masques, commander des gels hydroalcooliques, commander des visières, des gants.
Et comment on fait pour appliquer les mesures barrières si 2 acteurs doivent s'embrasser par exemple?
On a déjà, il faut le savoir, avant chaque tournage, une visite médicale des acteurs. Si aujourd'hui ils sont testés non porteurs du Covid, qui s'embrassent, elles ne vont pas choper le Covid. Il y a un surcoût à ça. Il me semble naturel que les assurances soient amenées à participer à l'effort.
Enfin, il faut que lors de la réouverture des salles, il y ait de gros films qui sortent, des locomotives, et ce n'est pas gagné. Certes, Kaamelott d'Alexandre Astier, Mulan de Disney, Bob l'Éponge ou le nouveau Christopher Nolan sont attendus en juillet, mais encore sous la menace d'un décalage en fonction de la situation sanitaire dans le monde entier. Même la sortie du nouveau James Bond, prévu pourtant en novembre, pourrait être finalement décalée à l'année prochaine.
Mathieu Charrier, qui souhaiterait lui aussi remettre son smoking et refaire quelques critiques de films.
Oui, je suis sûr qu'il a hâte, avec ou sans masque, en laissant de la place entre les spectateurs, pourquoi pas, je ne sais pas. On va poser la question, évidemment, du cinéma au ministre de la Culture, Franck Riester. C'est l'invité d'Europe 1 ce matin à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Merci François Geffrier. C'était le journal de 6h30, une nouvelle édition tout à l'heure à 7h avec Hélène Zélani. Oui, Franck Riester, parce que le monde de la culture est aussi à l'arrêt total depuis le 17 mars, cinéma, théâtre, concerts, festivals, mais aussi musées, tous les événements culturels qui se sont annulés les uns après les autres. Alors évidemment, il y a le rayonnement culturel français, mais c'est une question économique, bien sûr. Là aussi, les intermittents du spectacle qui ont peur pour leur avenir et qui demandent une prolongation de leurs droits, ils attendent des réponses du président de la République demain. Et ce matin, c'est donc le ministre de la Culture qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk, avant de vous répondre, d'écouter vos témoignages, d'échanger avec vous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Très bon réveil à toutes et à tous.
Mathieu Béliard.
Mais pour l'heure, à 6h43, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, comme tous les matins. Bonjour Alain Griset.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. J-6, vous comptez les jours jusqu'au 11 mai, j'imagine, la relance de l'activité économique, le retour en entreprise, si possible, dans des conditions d'hygiène qui vous compliquent la tâche, on va en parler, l'hygiène, la sécurité sanitaire, évidemment. Les entreprises doivent se préparer. Alain Griset, les entreprises seront-elles prêtes ?
En tout cas, les indépendants ont fort envie de reprendre l'activité. Pour eux, c'est absolument essentiel. Il y a les guides de bonne pratique sur lesquels nous travaillons. Il y a encore 2-3 jours d'attente pour que quelques-uns sortent. Mais ensuite, il va y avoir là une semaine pendant laquelle chacun va s'équiper, s'organiser pour pouvoir accueillir les consommateurs qui sont attendus avec impatience.
Vous avez adressé un courrier au gouvernement avec le MEDEF et la CPME. Vous demandez à la ministre du Travail de sécuriser la situation juridique des employeurs. Aujourd'hui, soyons clairs, vous craignez qu'on se retourne contre vous en cas de contamination d'un salarié ?
Il y a effectivement, quels que soient les efforts que nous allons faire, il pourra toujours avoir un salarié, peut-être un consommateur, qui nous dit « Attendez, quand je suis venu chez vous, j'allais bien et ensuite j'ai attrapé le virus », sans savoir d'ailleurs si c'est chez nous ou pas. Et il pourra toujours avoir éventuellement un risque de poursuite pénale. Et donc nous nous disons au gouvernement « Écoutez, non, si nous prenons nous nos responsabilités, si nous sommes équipés, si nous respectons les gestes barrières, et à ce moment-là, il faut absolument que nous ayons la garantie qu'il n'y ait pas de risque pénal en plus de tout ce qu'on nous demande ».
Alors cette question de la responsabilité pénale, elle est essentielle et elle est clé à ce moment de la semaine, à quelques jours du déconfinement. On en parlait avec les élus locaux dans le journal de 6h30, Alain Griset. L'employeur, est-ce qu'il a une obligation de moyens ou une obligation de résultats ?
La ministre nous dit que c'est une obligation de moyens. Mais nous, on dit qu'il vaudrait mieux qu'on ait un texte, quelque part, un peu comme les élus, comme les maires pour les écoles. Et donc, nous insistons beaucoup, depuis maintenant plus d'un mois, pour qu'on ait ce document, cet écrit, cette officialisation, qu'à partir du moment où nous mettons les moyens nécessaires, ce qui est normal, nous soyons garantis et qu'on n'ait pas en plus un risque pénal qui s'ajouterait à beaucoup de difficultés.
Oui, parce que, pardonnez-moi, mais il y a ce que dit la ministre oralement, ce qu'elle vous dit, et puis il y a la jurisprudence. On a quand même des cas où des employeurs ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas réussi ces résultats, une obligation de résultat.
Tout à fait, c'est bien l'échange que nous avons avec la ministre. Par principe, on veut bien croire ce que la ministre nous dit.
Oui, mais justement, à part vous dire, parce que je comprends bien votre problématique, je comprends bien dans quelle situation vous êtes, Alain Griset, à ce qu'elle peut vous dire oralement, qu'est-ce que ça vaut ? Aujourd'hui, vous demandez quoi concrètement ? Une modification des textes ?
On veut un texte de loi, naturellement. Actuellement, le Sénat est en train de travailler sur les mesures nécessaires pour la prolongation de l'état sanitaire. Il faut qu'au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale, un texte nous garantisse par la loi qu'effectivement, quand vous respectez les conditions qui sont imposées, à ce moment-là, ben, vous êtes garanti que pénalement, il n'y aura pas de poursuite. Et c'est indispensable pour nos collègues pour travailler dans un minimum de sécurité dans une période déjà très compliquée.
Mais sans quoi vous ne pouvez pas rouvrir ?
Sans quoi, naturellement, qu'on va rouvrir, parce que nos collègues ont besoin de travailler, c'est indispensable financièrement. Mais ce n'est pas idéal et ce n'est pas normal que nous puissions toujours avoir une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête, comme ça. Et donc, on a absolument besoin, c'est indispensable, de cette sécurité juridique.
Parce qu'aujourd'hui, c'est une contrainte. Hein. On ne peut pas vraiment faire autrement, tout le monde le comprend, mais c'est une contrainte que de reprendre dans ce contexte les règles de sécurité sanitaire, l'organisation interne. Alors, on parlait de ces directives du ministère du Travail, les 4 mètres carrés par salarié, la désinfection quotidienne des locaux, les masques, les tests, tout ça, ça va avoir un surcoût pour vous ?
Ça, c'est une évidence. Il va y avoir un surcoût sur l'achat du matériel, les gels, les masques, les blouses, les charlottes, mais il va aussi y avoir le temps passé pour désinfecter, pour nettoyer, pour dire de sécuriser. Et donc ça, c'est de l'argent, du temps passé qui n'est pas facturé, de l'achat du matériel. Et donc, on va avoir sans aucun doute un surcoût, alors qu'on sait...
Vous dites qu'il n'est pas facturé, ça ne va pas se sentir sur les prix du tout, Alain Griset ? Bah forcément, au bout du compte.
À un moment donné, il faudra bien que quelqu'un paye. Et nos entreprises, déjà, ont du mal d'être rentables parce qu'on sait bien que dans les premiers mois, il n'y aura pas suffisamment de clients pour rentabiliser les entreprises. Et donc, ce surcoût, il faudra bien le faire assumer. Donc, pour le bâtiment, il y a une discussion actuellement avec le pouvoir public, mais dans beaucoup d'autres métiers, il n'y aura pas ces discussions. Et donc, malheureusement, il y aura une répercussion sur les prestations.
Parce que, j'insiste, hein, Alain Griset, vous représentez les entreprises de proximité. Il y a des clients sensibles chez vous. Quand je dis clients, il y a des entreprises sensibles chez vous. Je pense au métier de la coiffure, au métier de l'esthétique, au métier au contact direct de la clientèle.
Oui, et d'ailleurs une forte attente des Français pour pouvoir retourner chez leur coiffeur, chez l'esthéticienne. Nous avons beaucoup travaillé pour sécuriser dans ces métiers. Il y aura des fiches qui vont sortir, j'espère, demain ou après-demain ou plus tard, qui vraiment sécurisent le consommateur. Mais là, il y aura la question du coût et nos collègues, à un moment donné, ne pourront pas faire autrement. D'où la demande que nous faisons à l'État d'accompagner nos entreprises encore pendant plusieurs mois de façon à ce qu'il n'ait pas un surcoût. On sait bien qu'il y a beaucoup de Français qui, financièrement, ne pourraient pas le supporter.
Ce que vous demandez, Alain Griset, c'est la prolongation des aides ?
Prolongation des aides, du fonds de solidarité, du chômage partiel, de façon à ce que, allez, jusqu'au mois de septembre, au minimum, et peut-être même jusqu'à la fin de l'année, nous puissions faire notre travail en toute sécurité sanitaire et financière. Nous sommes solidaires pleinement, mais nous devons aussi permettre à nos collègues de travailler dans une sécurité qui aujourd'hui, pour eux, n'est pas totale.
Pour terminer, Alain Griset, parce que c'est important, on parlait des métiers que vous représentez du côté des entreprises de proximité, des métiers en contact avec la clientèle, des commerçants, beaucoup. L'idée quand même, c'est important dans le commerce, c'est de rassurer la clientèle aussi.
C'est de rassurer la clientèle, c'est évident. D'où le travail que nous faisons depuis plusieurs semaines, d'où les fiches métiers que nous avons proposées, qui commencent à être validées quasiment toutes, à part quelques-unes, et pour vraiment dire aux clients, vous pouvez venir chez nous, il n'y a pas de difficulté, nous avons mis en place les gestes barrières, nous avons mis en place tous les protocoles qui nous sont imposés, qui sont lourds. Maintenant, il faut que du côté du gouvernement, nous continuions à être suivis, accompagnés, c'est déjà bien le cas, il faut dire la vérité, il faut que ça continue, pour qu'on puisse travailler dans des conditions à peu près correctes.
Merci Alain Griset. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes tôt ce matin à 6h50 sur Europe 1. Le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité en direct ce matin. Voilà, nous sommes au cœur de ces problématiques que l'on va développer tout au long de la matinée, vous le savez. Et au bout de la matinale prolongée de 9h à 9h30, nous serons avec Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, qui répondra à vos questions d'entrepreneurs, de salariés justement, au-delà du droit du travail. Ça dépasse le droit du travail que ce contexte particulier de reprise. Toutes les questions que vous vous posez sur votre responsabilité d'entrepreneur, sur vos obligations de salarié. 3921, le hashtag Radio Ouverte, n'hésitez surtout pas. Il est 6h51. Europe 1. À suivre la revue de presse internationale, nous partons pour Israël, la Hongrie et les États-Unis. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
6h52 sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, avec, pour commencer, Clotilde Mravko en Israël. Bonjour Clotilde.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous ?
La presse israélienne ce matin nous amène dans ce qu'on appelle ici les hôtels coronavirus. Les Israéliens qui reviennent de l'étranger sont obligés d'y séjourner pendant 15 jours le temps de s'assurer qu'ils ne ramènent pas le virus au pays. Mais les conditions d'accueil y sont exécrables, rapporte la chaîne de télévision 12, à tel point que plusieurs des résidents ont été tentés de se suicider. Les voyageurs n'ont pas le droit de sortir de leur chambre et se sentent donc en prison, explique le Jérusalem Post. Des voix se sont élevées au sein du gouvernement pour demander la fermeture de ces établissements le plus vite possible. Quasiment tous les vols vers Israël ont été suspendus, mais des liaisons ont été maintenues pour rapatrier des Israéliens. Les hôtels coronavirus sont aussi critiqués car ils coûtent une fortune, dénonce la chaîne de télévision I24, près de 50 millions d'euros par mois.
Merci Clotilde Mravko en Israël. Joël Le Pavous est en Hongrie pour Europe 1. Bonjour Joël.
Bonjour Mathieu.
À la une chez vous.
En Hongrie, Mathieu, on passe le bac malgré le coronavirus. Plus de 70 000 lycéens se sont rendus aux premiers écrits ce lundi avec des conditions de sécurité extrêmement strictes, pandémie oblige. 10 candidats par salle maximum, port du masque obligatoire et 1,50 m de distance entre chaque table, relate le portail Origo. Du jamais vu depuis la guerre, commente Index, soulignant que les oraux n'auront lieu que dans quelques matières spécifiques comme l'instruction religieuse ou l'art populaire. Le principal syndicat enseignant, cité par ATV, estime que le gouvernement met en danger les étudiants, maintenant le bac au lendemain du pic local de l'épidémie. Les lycéens ont néanmoins eu le choix, précise le web magazine 444, venir aux examens ou attendre la session de rattrapage prévue en octobre. Pour ceux qui ont bravé le virus et planché hier sur le hongrois et la littérature, les épreuves se poursuivent dans la crainte aujourd'hui avec les mathématiques et demain avec l'histoire.
Merci Joël Le Pavous, en Hongrie. Xavier Yvon est à New York pour Europe 1. Bonjour Xavier.
Hello Mathieu, bonjour à tous.
Alors chez vous, c'est le port du masque qui fait débat.
Oui, le masque est devenu un point de crispation dans la guerre culturelle autour du virus, note le New York Times. Dans le Michigan, cela a même coûté la vie à un garde de sécurité d'un magasin abattu par balle. La presse locale raconte qu'il avait demandé à des clients de mettre un masque et qu'une dispute a éclaté. Dans une ville de l'Oklahoma, quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de l'obligation de port du masque dans les commerces, eh bien, la mesure était retirée par la mairie. Le Washington Post explique que c'est à cause de la violence des réactions des habitants. À l'inverse, à New York, ce sont les joggers sans masque qui se font hurler dessus, constate Slate. Dans le Massachusetts, un homme qui courait le visage découvert a même été menacé au couteau pour qu'il change de trottoir.
Merci Xavier Yvon à New York pour Europe 1. C'est votre fenêtre ouverte sur le monde tous les matins avec notre réseau de correspondants sur Europe 1.
C'était la revue de presse internationale avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1.
La grande distribution et les pharmaciens face à face sur cette question de la distribution des masques aux Français. Vincent Pharmacien nous a appelé au 3921. On le retrouve dans un tout petit instant.
Et maintenant, parlons transport et logistique avec France Express.
Et je suis en ligne avec Jacques Souet, directeur des agences France Express de Nancy et Épinal. Alors Jacques, pendant le confinement, France Express continue sa mission de transporteur. De quelle manière ?
Nos conducteurs chez France Express ont reçu l'ensemble des équipements nécessaires pour se protéger. Et pour protéger nos clients, nous avons mis en place l'émargement sans contact.
Alors on annonce la reprise progressive de l'activité. Comment allez-vous accompagner vos clients à ce moment-là ?
Alors chez France Express, l'activité n'a jamais été interrompue. Nous avons toujours été présents pour nos clients pendant le confinement. Et nous le serons demain. France Express continuera à accompagner les clients qui reprendront leur activité prochainement.
Merci Jacques Souet, à bientôt.
Merci à vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur france-express.com. Mathieu Béliard.
Et vos appels au 3921, vous le savez, c'est la radio ouverte Europe 1, nous sommes à votre écoute, nous vivons cette période si particulière à vos côtés et Vincent nous a appelé, il est pharmacien à Lyon. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous avez reçu des masques, vous avez commencé la distribution chez vous ?
Non, malheureusement, il n'a pas encore reçu, mais ça devrait pas tarder. Enfin, on a toujours depuis longtemps les masques de l'État distribués aux professionnels de santé, mais pas encore pour le grand public. Voilà. Donc oui, je vous ai appelé hier suite à l'émission que j'écoutais comme tous les matins en me rendant à la pharmacie, et vous disiez que on était dans un face à face. Pas tant un face à face. En fait, moi, ça me gêne pas que les grandes surfaces vendent des masques et participent à fournir le grand public. Ça me pose pas de problème. Ce qui me gêne, c'est la communication qui a été faite autour de tout ça. Les liens avec les problèmes de fidélité, la communication promotionnelle, enfin bref. En gros, les masques, c'est un produit d'appel et c'est un peu choquant pour nous, professionnels de santé. Il ne faut pas chercher plus loin.
Voilà. Oui. Ce qui vous gêne, c'est la communication qui est faite autour des masques en grande distribution. Ce n'est pas le fait que la grande distribution puisse en commercialiser.
Non, mais que tout le monde en vente, c'est très bien. Ça donne un peu d'accès à tout le monde. Et moi, ce que je vois, c'est que sur les chaînes d'info, on voit les grands patrons de la des principales enseignes qui annoncent que les masques vont arriver à grand renfort de millions de masques, enfin à grand renfort de millions, c'est ce que vous avez constaté aussi. Et souvent, ils ne les ont même pas encore. Donc voilà, ça renforce encore ce sentiment de transformer un produit finalement utile en produit d'appel. Et puis, il faut savoir que nous, pendant plusieurs semaines, en fait, on a géré la pénurie. C'est-à-dire qu'on a refusé à d'autres professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, c'est-à-dire les pédicures podologues, enfin tous ces gens-là qui avaient besoin pour travailler, on a refusé aux patients fragiles en fait de pouvoir les fournir parce que on rationnait les masques à la demande de l'État. Et ça, c'est difficile pour nous, quoi. Voilà, aujourd'hui.
Oui, ça a été une période un peu compliquée pour vous de devoir dire non à certains clients, voire même certains habitués de votre pharmacie pour les réserver. Aujourd'hui, vous allez pouvoir distribuer des masques grand public. Vincent, concrètement, petite question avant de vous libérer, de vous laisser aller travailler. Que vous disent vos clients en pharmacie aujourd'hui? Quelles sont les questions qu'ils vous posent, les inquiétudes qu'ils ont par rapport à ce dispositif médical que sont les masques?
C'est 200 coups de fil par jour pour savoir si on en a, quoi. Donc en fait aujourd'hui, avec toute la communication qui a été faite, on a l'impression que c'est le laisser passer pour pouvoir sortir. Ouais, c'est ça. Et la question aujourd'hui, c'est uniquement savoir s'ils pourront en disposer. Mmh. Il faut savoir que tout le monde les a demandés en même temps. Donc ça arrive doucement mais sûrement, et puis que petit à petit on va être approvisionné. Mais toutes les entreprises qui ont redirigé leur outil de production aujourd'hui, vous commencez à fournir, mais par petite quantité, et au fur et à mesure, je pense qu'on va tous monter en puissance et être capable de fournir.
Progressivement, voilà. C'est le maître mot, fameux maître mot. Vincent, je vais vous laisser retourner travailler, parce que faut bien que vous travailliez un petit peu à ces heures-là, puisque ensuite il y a 200 coups de fil par jour pour les masques, j'ai bien compris. Merci Vincent.
Il y a quelque chose à faire à côté.
Merci. Merci vraiment de nous avoir éclairé. Votre témoignage, il est précieux. Vincent, à Lyon, en direct au 39-21 ce matin. Laurent Cabrol pour la météo.
Voilà, je vais faire un enchaînement idiot, mais enfin, le soleil avance masqué, et ça, aujourd'hui, ça n'est pas du tout le temps. Non, ça va. Merci.
C'est pas idiot, c'est poétique.
Donc, c'est vraiment une période, toute petite période, où le soleil sera presque absent, sur des régions comme le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne, la vallée du Rhône, et la vallée de Loire, pardon, et la région Rhône-Alpes. Nous aurons une amélioration, certes, mais enfin une matinée humide. Et puis, il pleuvra quand même assez fréquemment sur la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, le centre, la Franche-Comté. D'étranges soleils timides sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et sur le bassin atlantique, comme le sud-ouest, les éclaircies vont l'emporter très rapidement. Les températures aujourd'hui, allez, entre 15 et 22 au nord, pour être assez vague, 15 à 22 au nord, 21 à Paris, et entre 24 et 32 à Bayonne. 24 degrés à Marseille et 32 degrés à Bayonne.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol. Et bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. 7h sur la radio ouverte.